Tête-tête et cornemuse. Chantal Lamarre revient en solo avec un cabaret biocomique aussi vintage qu'actuel. Mercredi 26 novembre, Le ciel est une belle ordure. Quatre femmes, une mère, des mondes qui s'entrelacent entre réel et irréel. Trois soirées, trois univers. Ne manquez pas ces rendez-vous uniques. Informations et achats au espace dcl.ca.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. L'Aérospatiale est le seul magazine culturel entièrement dédié aux arts visuels, diffusé depuis plus de 10 ans, et ce grâce à une longue liste de bénévoles, d'artistes et de travailleuses culturelles qui, comme nous, ont eu à cœur de parler d'art et de donner la parole aux artistes. Pour une troisième année, c'est en mon nom, Christelle Tremblay, et celui de ma collègue Mathilde Harvey-Morin, que je vous souhaite la bienvenue à bord de l'aéro. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Christelle, bienvenue à CKRL.
Merci. Enfin, c'est notre petite célébration hebdomadaire d'être en studio ensemble.
Exactement.
C'est le moment cool de la semaine. Écoute Mathilde, je te laisse la parole pour présenter à nos auditeurs le menu de l'émission de ce soir.
Oui, bien sûr. Alors ce soir, c'est une émission un petit peu plus classique avec deux visites super intéressantes. On va commencer avec Juliette Matte-Breton qui vient nous parler de son exposition Spectrum of Feminine Rage qui va être présentée à la Galerie des Fauves de la Charpente des Fauves du 15 au 21 novembre. Si je comprends bien, c'est un peu son expo de fin de maîtrise.
Oui, exact. Et c'est déjà en montre. Donc, ça l'a ouvert ce week-end.
OK, cool. Et ensuite, on va continuer avec Maxime Sauvage qui vient nous parler de son projet Espérer fondre tempête.
Faire tempête.
Faire, oh, pardon.
J'ai fait une coquille, je m'excuse.
Donc, Espérer faire tempête, qui est une installation et plusieurs performances qui vont être présentées à Regard, le centre d'art actuel à Lévis. Ça a commencé depuis le 14 novembre et ça va continuer jusqu'au 13 décembre prochain.
Oui, les deux vont pouvoir nous parler de leur démarche, de leur travail. Pour la sélection audio de ce soir, Mathilde a choisi dans nos archives musicales Cloud Warmer, un projet musical d'Eddie Palmer qui est basé à New York. Ce projet mêle des genres tels que le trip-hop, le lo-fi et la musique électronique expérimentale. Eddie Palmer est également associé à d'autres projets, notamment Aries Delt, Cult, Electric Mirrors, Fields, Ohio, The Fucked Up Beat et Studio Noir. On écoute ce soir des extraits de l'album Doomers, un album qui est sorti en mars 2022, et la première piste audio qu'on écoute s'intitule Where Were You When England Won the 1984 World Cup? We'll be right back. Rebienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro. Je suis en studio, dans les studios de CKRL, dans Limoilou, sur le Nyon-Wendisio, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Et on est rejointe par l'artiste Juliette Matte-Breton. Bonsoir, Juliette.
Allô!
Merci d'avoir accepté l'invitation à l'aéro. C'est fort apprécié.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation.
Ouais, c'était important parce que bon, j'aime beaucoup accueillir en entrevue les artistes qui sont de la relève locale. Là, je fais des R guillemets, là, ça sert à rien. Mais dans le fond, c'est parce que on catégorise la relève à peu près 10 ans et moins là, de pratique professionnelle. Fait que c'est le début, si on veut, de ta pratique professionnelle. Tu nous présentes une expo qui est l'expo culminante de ta maîtrise en arts visuels. Est-ce que c'est un moment qui est le départ pour toi ou c'est la continuité d'un cycle que tu as amorcé précédemment?
Oh, très belle, très bonne question. c'est quand même une continuité. Il y a beaucoup de nouveaux, je pense, dans cette exposition-là. J'ai découvert, entre autres, un amour, tu sais, pour communiquer avec l'humour un peu plus dans ce dernier projet-là, là, que j'avais pas assez exploré avant, que je m'étais pas laissé explorer. Mais c'est le début aussi de quelque chose, c'est de plein de beaux projets aussi. Je continue mes études aussi, puis, ouais.
C'est ça, parce que est-ce que tu voudrais présenter ton parcours peut-être à nos auditoristes? Tu es de Québec?
Oui. Oui, absolument. J'ai fait le baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Puis, j'ai fait tout de suite après là, une maîtrise en arts visuels avec mémoire. L'exposition, c'est mon exposition de fin de maîtrise. Puis là, je viens de commencer cet automne un doctorat sur mesure en arts et sciences sociales.
Bon. Le titre de ton expo, Spectrum of Feminine Rage, d'abord, c'est un titre en anglais, et c'est un titre qui, met le doigt là, dans le vif du sujet. Là, tu fais pas dans la métaphore très éloignée de ton propos. On est proche de ce que tu nous présentes. Est-ce que tu veux un peu nous présenter ton objet d'étude, ce qui a animé ton parcours à la maîtrise, puis ce qui est au cœur de ton expo?
Oui, absolument. J'ai travailler sur le concept de la colère. En fait, mes études à la maîtrise ont été sur comment construire un récit à partir de la colère puis du savoir expérientiel, là, donc l'expérience comme savoir. Puis j'ai découvert à un moment donné, pendant que je me cherchais, tu sais, pendant la maîtrise, je pense la première année de maîtrise, on cherche beaucoup comment est-ce qu'on crée, qu'est-ce qui déclenche nos créations. J'ai découvert que pour moi, la colère, c'était une bonne source de motivation, puis que ça déclenchait chez moi là, des envies de créer. Donc, je me suis mise à écrire sur cette colère-là, puis les expériences qui créaient mon sentiment de colère. Puis, j'ai voulu lier cette colère-là, lier ces écrits-là, en fait, à toutes sortes de concepts, tu sais, parfois des stéréotypes, des références à d'autres œuvres, des références aux cultures populaires aussi, pour venir extraire là, vraiment des idées fortes, puis en faire des personas que je mets en scène dans des photographies. Donc ça, c'est une des parties là, de mon exposition. Vu que je traite beaucoup aussi, tu sais, le concept de... J'en parle un peu, là, mais le concept de « feminine rage », c'est un concept qui est socialisé. Donc, je m'intéresse à comment est-ce que la colère s'exprime chez les personnes qui ont été socialisées comme des filles. La construction, c'est ça, des identités, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'était pour ça, j'ai une partie beaucoup installative dans mon exposition qui vient parler justement de l'enfance, de la construction de l'identité, de comment est-ce que tout ce qu'on consomme vient construire là, les identités, en fait.
Donc, tu le mentionnes, les médiums de prédilection, il y a la photo qui est très, très présente. Et la photo est aussi utilisée mise en espace de façon à rappeler la place que la photo prend dans notre société aujourd'hui, qui est beaucoup celle de nos téléphones portables, des tableaux Pinterest. Donc, la mise en espace de la photographie contribue aussi à nous amener dans un endroit qui est peut-être la post-photographie, là, qui est au-delà de la photo imprimée telle que les artistes l'ont utilisée jusqu'au début des années 2000. Donc, tu es déjà comme dans une utilisation, une mise en espace de la photo qui nous amène à nous questionner sur ce médium-là, sur cette utilisation du médium. Puis l'aspect installatif est très rigolote. On ressent beaucoup l'humour, en fait, dans le choix des objets que tu mets en espace. La façon dont tu décrirais cette expo-là, est-ce que tu voudrais t'amuser à en décrire l'expérience pour un auditoriste qui n'aura pas la chance ou n'a peut-être pas encore eu la chance de la visiter, parce qu'elle est en montre à la Galerie Fauve, à la Charpente des Fauves, c'est ouvert toute la semaine, c'est très, très accessible, mais c'est peut-être pas tout le monde qui va passer par là.
Oui, effectivement. Sur tous les murs de la galerie, j'ai voulu essayer de reconstituer un peu... c'est pour ça que ça s'appelle Spectrum of Feminine Rage. J'ai voulu essayer de reconstruire une partie du spectre de la colère, comment est-ce que je la ressens puis comment est-ce que je l'exprime. Donc, j'ai placé sur tous les murs de la galerie des photographies, une mosaïque de photographies. Je pense que j'en ai 63 en tout, donc de différentes séries pour venir vraiment... C'est j'ai juste des mots en anglais qui me viennent, mais c'est overwhelming, je pense, quand même, ce qui se passe sur les murs. Puis, au sol, j'ai des installations d'objets qui viennent vraiment de mon vécu, de mon expérience, de mon enfance, entre autres, des objets qui me sont chers. Puis aussi, que je viens lier à des objets qui ne proviennent pas directement de mon expérience, mais qui sont liés un peu... qui sont adjacents à celle-ci.
Puis aux personas qui sont représentés dans...
Aussi, absolument.
Les photos sont toutes des autoportraits?
Oui.
On ressent la culture du selfie?
Oui, absolument, oui.
Le selfie comme médium, est-ce que ça t'intéresse? Toute cette lignée-là de l'autothéorie, parce que tu parlais de l'expérience comme savoir, c'est vraiment dans la ligne de l'autothéorie puis de la construction des savoirs féministes. J'imagine que ça l'a beaucoup nourri tes recherches?
Oui, absolument. L'autothéorie, c'est vraiment au centre là, de ma démarche artistique puis de mes études aussi en recherche. J'aime beaucoup, en fait, cette construction-là des savoirs horizontaux, là, dans le fond, d'aller lier à des concepts qui viennent de l'extérieur de nous, mais aussi d'aller lier justement ces concepts-là dans la création, puis dans la théorie, à du savoir qui provient de nos expériences personnelles pour venir faire des liens. Ça crée des liens avec nous, mais ça crée aussi des liens avec d'autres personnes. Ça vient élargir aussi parfois ce concept-là, ces vécus-là, ces expériences-là, ça vient rejoindre d'autres vécus. C'est une des choses que je trouve extrêmement intéressante.
Donc, de passer par la résonance expérientielle pour tisser le lien avec le regardeur plutôt que de passer par un concept qui serait exemplifié ou démontré de façon plus théorique. On passe par l'expérience. L'expérience, tu la mets en scène avec ton corps. Il y a toute une lignée, là, depuis les années 2000, d'auto-représentation dans le selfie d'artistes femmes en art actuel. Comme ça fait 25 ans maintenant que ce trend-là se poursuit en art actuel, comment tu le réinventes ou tu t'appropries ces moyens-là?
C'est une très, très bonne question.
C'est pas facile, hein?
Non, c'est pas facile.
Mais tu sais, dans toute pratique artistique, on marche sur les épaules de ceux qui ont travaillé avant nous, puis on récupère, puis on s'approprie des stratégies. Puis particulièrement dans l'histoire de l'art féministe récente, c'est encore plus tangible parce qu'on le voit, c'est tout récent que les femmes se sont appropriées ces façons-là, très Instagram, de caméra oui. retournée vers elles-mêmes.
Oui, bien on le voit beaucoup, je pense que c'est une pratique qui vient là, directement évidemment de l'Internet, là, des réseaux sociaux. Je m'inspire beaucoup aussi de la culture du meme sur Internet là, oui. pour aller chercher justement cet aspect humoristique-là. Pour répondre à ta question aussi de comment est-ce qu'on réinvente ça, je crois beaucoup en tout le monde amène là, sa contribution pour construire justement un savoir qui est le plus riche puis le plus juste possible qui peut représenter qu'est-ce que ça va être justement l'entièreté du monde, tu sais, puis toute la multiplicité aussi des expériences justement ouais. des femmes puis des expériences féminines, donc, ouais, je viens à amener humblement là, ma petite contribution
avec une esthétique qui est très propre. Là, on n'a pas parlé de la couleur rose, mais dans, quand tu parlais d'overwhelming, quand on entre dans la galerie fauve qui est toute blanche, le rose est presséant. Là. On est submergé par une vague de rose. Ton rapport à cette couleur-là, c'est quoi?
J'adore le rose. Mais pour vrai, tu sais, je pense que ça a commencé avec le rose par des affinités là, plus esthétiques. Puis je le voyais, tu sais, c'était beaucoup aussi une façon pour moi de me réapproprier parfois, tu sais, de me réapproprier un aspect culturel, évidemment, puis de parler aussi, tu sais, de socialisation, mm-hmm. De socialisation féminine. Puis est venu avec ça, avec mon utilisation subtile du rose, des questionnements de ma part, mais d'autres personnes autour, puis des critiques, tu sais, sur l'utilisation ou mon choix d'utiliser le rose, qui m'ont fait beaucoup me questionner. Puis ça m'a donné envie de l'utiliser, là, de façon exagérée, en fait. De l'utiliser de façon exagérée, de vraiment l'intégrer à ma vie, à mon quotidien, là, pour performer un peu aussi au quotidien, là, ma pratique artistique, puis mon, tu sais, mon persona artistique, voir aussi comment est-ce que les gens allaient réagir à cette surutilisation-là du rose, puis que ça crée des situations aussi qui nourrissent là, mon processus créatif là, par là. Fait que je me suis mis à vraiment là, l'intégrer dans toute ma vie. Là, je commence à être un peu plus relax avec ça, dans le temps de ma maîtrise là, pour mon projet, puis de l'intégrer à outrance aussi. Tu sais, je suis beaucoup dans un questionnement, je sais pas si c'est... Tu sais, j'ai pas les réponses sur si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je l'explore.
mais oui, puis c'est ça de la recherche-création, hein. La recherche se fait par la pratique artistique, puis que ça fonctionne ou pas, peu importe, c'est que la recherche est active, qui est intéressant. Une des installations, en fait, ou en tout cas des morceaux de l'installation que tu nous présentes, est un espèce de bureau, table de journal intime. On ressent beaucoup l'espace intime de la chambre. Et sur ce bureau-là, tu as laissé la trace, en fait, d'un cahier de notes où il est écrit la question, là, je ne sais plus trop où s'arrête l'art et la vie. Est-ce que ça s'arrête, en fait, pour toi, ou est-ce que, comme tu le mentionnais, tout ce processus-là d'exploration du spectre de la rage féminine et de la socialisation de la colère dans ton expérience, est-ce qu'il y a une limite entre ta pratique artistique et ta vie, ou tout est devenu... tous tes intérêts pointent vers ça maintenant?
La limite n'existe pas. Malheureusement. Non, mais heureusement. Mais je sais pas, en fait. Tu sais, ça revient au même, là. Je pense que la plupart, tu sais, des artistes, justement, on est toujours en état de recherche-création. Pour moi, c'est sûr que, étant donné que ma pratique se base sur l'expérience puis le savoir expérientiel, je suis toujours... t'sais, en état d'écoute de mon environnement, puis je suis toujours prête à vivre une expérience artistique qui va peut-être donner ma prochaine œuvre, t'sais.
J'ai une question par rapport à l'exposition qui a été présentée l'année dernière à la salle Alphonse Desjardins de l'Université Laval, qui s'intitulait, là, bon là je le cherche, je le trouverai pas, mais c'était « Rage et paillettes ». C'est une exposition en duo ou en collectif auquel tu avais participé?
C'était une exposition solo.
Ah bon? Je m'excuse, mes notes sont confondues. Alors, cette exposition-là, tu avais répondu à un appel du comité de, j'imagine, d'étudiants en histoire de l'art qui programme la galerie à la salle Alphonse Desjardins?
Oui, du bureau de la vie étudiante.
Bon. Et cette expo-là prenait, avait un corpus plus large que ton expo de fin de maîtrise, mais le corpus qu'on voit dans ton expo de fin de maîtrise y était présenté.
Pas dans son entièreté.
Ah bon, c'est ça que je voulais savoir. Comment t'es arrivé ton chemin d'entonnoir pour arriver de cette expo-là à grand déploiement? Tu vois, je pensais que c'était un collectif, il y avait du stock, là. Dans mon souvenir, c'est qu'il y avait énormément d'installations. Bon, elles étaient toutes de toi, donc c'était ton corpus de travail complet, on pourrait dire.
Oui, ben c'était toutes mes recherches dans ma première année de maîtrise. j'ai pas mal mis là, tout ce que j'avais. Là, évidemment, c'est une salle immense aussi.
Ouais.
Puis, c'était ma première exposition là, toute seule. J'avais beaucoup mis mes recherches dans ce temps-là. Je ne savais pas encore exactement où est-ce que je m'en allais pour mon expo de fin de maîtrise. J'avais du collage, j'avais de la photographie qui était plus isolée. J'avais même des éléments que j'avais faits quand j'étais au baccalauréat. Mais je voulais vraiment mettre l'accent là, sur cette exposition finale-là, sur les photos, qu'il y en a beaucoup aussi. J'avais à peu près la moitié dans ce temps-là, voilà un an, des photos que j'expose maintenant dans mon exposition de fin de maîtrise. Donc, j'ai comme deux fois plus de photos, de photographies. Puis, je voulais mettre l'accent sur ces photographies-là, puis vraiment me concentrer sur, tu l'as nommé tantôt, les objets qui reviennent dans mes photographies aussi pour faire un lien vraiment direct, puis un lien fluide là, entre ces personnes-là, puis ces objets-là aussi du quotidien qui viennent faire un lien, je trouve, vraiment bien avec la vie. J'ai beaucoup des petites blagues aussi de mes amis qui disent « ton appartement doit être vide ». Mais tu sais, d'aller chercher vraiment des objets qui font partie de mon quotidien, puis de mettre cela avec mes personas qui sont, qui viennent encore, qui partent encore du vrai, là, de la vie, mais qui sont vraiment, poussés dans un extrême créatif, là, qui sont poussés... À autre chose, puis d'aller les mettre avec des objets de mon quotidien que je pousse aussi à autre chose. Ça fait partie des choses que je voulais faire, que je trouvais intéressantes pour venir faire un lien, encore une fois, là, comme pour revenir à la petite note, là, à l'art et la vie. Tu sais, les personas, on dirait que ça leur donne... Les personas sur les photographies qui sont pas vraiment moi, j'ai l'impression que ça leur donne une existence un peu dans... C'est que ça leur donne une existence tangible d'avoir leurs objets dans l'espace.
Puis ça vient amener un peu de trouble dans l'effet un peu parodique que certaines des photographies, on ne sait pas, là, au début, on se dit mon Dieu, le selfie, tu sais, ça évoque beaucoup de vanité, le narcisse des années 2000. Bon. Puis là, l'humour est trop présent pour qu'on soit juste dans cet aspect-là du selfie ou de la représentation de soi. Puis je pense que l'installation vient renforcer cette espèce de trouble entre où est-ce qu'on se situe dans le regard critique, dans la parodie de ce qu'on est vraiment, nous, dans nos vies, pris dans ces archétypes-là aussi, dans ces mises en scène-là, puis dans ces socialisations qui nous poussent finalement à agir de cette façon-là, à s'entourer d'objets qui nous amène à avoir ce genre de comportement-là aussi. Enfin, c'est une piste de réflexion que toi, t'as sélectionnée à travers ton expérience de maîtrise suite à l'épuration de ton premier projet d'expo, puis qui est très riche. Je te félicite, Juliette.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu aurais des remerciements, des shout-outs, des choses à plugger qui s'en viennent? Est-ce que ton jury s'en vient? Est-ce que ça a déjà fait, ça a bien été?
Mon jury s'en vient ce jeudi. Bon. Je vais être rendue là-dedans très bientôt. Évidemment, là, un grand merci à la Charpente des Fauves là, qui m'ont fait un super bel accueil. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, travailler là, dans leur environnement. Puis aussi, un grand merci à la personne qui m'a assistée dans ces photos-là, parce que quand même, il y a Camilo, mon partenaire, qui est mon assistant technique là, dans ces photos-là, qui m'aide avec la prise de photos.
Bon, ben c'est dit. Alors, on termine sur ça, Juliette?
Oui.
Parfait. On invite les gens à aller voir ton expo. Elle est en montre encore jusqu'au 21 novembre. Donc, les gens ont jusqu'à vendredi pour la voir.
Exactement.
C'est ouvert jusqu'à tard, en plus. Jeudi, c'est 5 à tard à la Charpente. Il va y avoir du monde.
Oui, exactement. Effectivement, pendant les événements de la Charpente, je ne sais pas si vendredi, il y a quelque chose aussi le soir. Ça se peut aussi.
C'est pas possible.
Ça va être ouvert pendant les événements de la Charpente en soirée. Sinon, toute la semaine, de 11 à 4 heures, au moins, c'est ouvert.
Parfait. Merci, Juliette Malbreton. On se laisse sur une piste audio qui s'intitule, j'ai pas le titre, In New York, Wired Face on the Subway Burning Cigarette Holes in Arms. C'est vraiment les plus beaux titres qu'on a eu depuis longtemps. C'est une piste de l'album Doomers du band Cloud Warmer. Et au retour de la pause, on s'entretient avec Maxime Sauvage au sujet de son exposition « Espérons faire tempête ».
CKRL 89.1.
Laissez-vous emporter par Voyage romantique, le concert annuel de l'Orchestre symphonique des Conservatoires du Québec, présenté le samedi 29 novembre au Palais Montcalm. Sous la direction de Clement Schultz et avec la participation du chœur Les Rhapsodes, plus de 70 jeunes du réseau du Conservatoire seront réunis sur scène pour vous offrir une soirée en compagnie de Borodine, Debussy, Fauré et Tchaïkovski. Un voyage musical à ne pas manquer. Billets en vente dès maintenant sur la billetterie du Palais Montcalm.
Vous vous faites des idées sur tout et n'importe quoi parce que vous cherchez désespérément un semblant de contrôle.
En quête de pouvoir, savez-vous de quelle manière l'industrie culturelle use et abuse de l'art? Ou de réponse? Vous trouverez tout cela et bien plus au Théâtre Périscope. Consultez notre programmation théâtrale en ligne au théâtrepériscope.qc.ca pour une découverte culturelle captivante.
À l'affiche en novembre, Job, puis en décembre, Use et Abuse.
C'est KRL.
Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. Je suis en studio, dans les studios de CKRL, dans Limoilou, sur le Nyon-Wintio, à Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, mais aussi avec Maxime Sauvage. Bonsoir, Maxime.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Je suis heureuse de t'accueillir en studio. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bien, merci beaucoup.
Alors, tu viens nous parler de « Espérer faire tempête ». Tout à l'heure, j'ai fait une faute, en fait, je l'ai dénommé. Mais c'est « Espérer faire tempête » comme titre, c'est j'ai trouvé ça juste. Parce que ça nous remet dans la crise climatique, mais ça nous remet en même temps dans toutes les métaphores de langage de la tempête qui habitent, en fait, notre identité québécoise. Puis j'ai trouvé que tu trouvais là, une façon de parler de notre identité qui était tellement à propos, puis qui ouvrait plein de portes. En tout cas, moi, ça m'a fait vibrer ta proposition. Puis là, j'aimerais que tu parles à nos auditeurs de quitter, en fait, comment t'es arrivé à triper sur la neige, les machines, les patentes, parce que c'est vraiment... je trouve que c'est une démarche qui est tellement ancrée localement dans des traditions de Québec que j'aimerais qu'on la mette en valeur.
Ouais, ben moi, je suis... en fait, je viens de la Montérégie, puis j'ai vécu le verglas. Le grand verglas, puis j'étais vraiment dans ce qu'ils appelaient le triangle noir.
Ben oui.
Puis j'ai réalisé ça la semaine passée, après avoir déposé mon mémoire et tout le reste. Mais moi, j'ai passé un mois, on était 4 familles dans une maison avec une génératrice, puis je réalise que ce moment-là d'exception, de la tempête, finalement, a vraiment travaillé sur mon imaginaire, puis m'a amené à, finalement, espérer la tempête. Puis quand on est enfant, on attend les nouvelles pour savoir si finalement on va avoir
de
l'école ou pas.
Jour de fête, jour de tempête, là. On est congé, tu vas jouer dehors toute la journée, c'est malade.
Puis je me suis retrouvé à arriver à Québec en pleine grosse canicule en 2024.
OK, c'est récent que tu étais
à Québec. Oui, je suis venu pour la maîtrise finalement. Puis derrière moi, il y avait cette idée-là, ah, je vais enfin vivre une vraie hiver, là, parce que ça faisait 10 ans que j'étais à Montréal, j'avais presque pas de neige, il y a de la slush, tu sais. Puis souvent, ils me disent, OK, ça va tomber en pluie à Montréal et ça va tomber en neige à Québec. Puis là, j'étais comme, yes!
Oui, partout au Québec, on a cette image-là de la ville de Québec comme une ville blanche à cause du carnaval, premièrement, mais aussi parce que c'est un peu plus au nord puis qu'il y a un microclimat avec le fleuve, fait que ça tombe en masse. Mais dans les dernières années, ça s'est pas tant avéré vrai.
Ouais, surtout la première hiver, moi j'ai été tellement déçu, je m'en allais tellement pas pour travailler sur l'hiver finalement.
Ah.
Non, pas en tout, même si c'était quelque chose qui était derrière moi, dans ma tête, moi je venais travailler sur, en tout cas, ça c'est pas si important, mais sur l'alimentation, le rapport à l'alimentation, tout ça, j'essayais de faire des sculptures alimentaires, en tout cas, bref. Puis,
Mais quand même dans l'organique ou dans le...
J'essayais de faire quelque chose qui était non... qui n'était pas une physique qui ne resterait pas, qui était dans l'éphémère.
Oui.
Puis il n'y a rien de plus éphémère que l'hiver, surtout quand il n'y en a pas.
Tabarouette.
Oui.
Puis l'année passée, là, l'hiver 2024, il y avait une nostalgie, une tristesse ambiante là, dans la ville de Québec parce qu'on a été sur l'asphalte presque tout l'hiver. Personne n'a pu faire de ski de fond, alors que c'est la joie des gens qui ont choisi de vivre ici, ces sports d'hiver-là, puis l'accessibilité à faire, à profiter de l'hiver en nature. Il y a des patinoires partout, il y a des pistes de ski de fond en veux-tu, en v'là, il y en a partout. Puis là, personne ne pouvait triper dehors. Fait que c'était triste. Puis là, toi, tu t'es dit, tiens,
ben,
une tempête.
Ouais, mais il y avait ça, puis il y avait aussi comme ce genre de déconnexion-là, réaliser à quel point on se bat contre la neige, contre l'hiver au Québec, puis comment aujourd'hui, actuellement, alors qu'on sait que ça s'en va, malheureusement, on continue à se battre autant, aussi fort.
Ah oui, le déneigement, il faut que la neige soit sortie des trottoirs puis des rues le 2 heures après que ça soit tombé. On n'a aucune tolérance.
C'est extrêmement efficace à Québec, même que j'en suis devenu un peu amoureux. J'ai suivi des groupes qui font le déneigement pendant la nuit avec ma caméra, avec mon enregistreur audio. Puis sont bons, là. Sont bonnes aussi. C'est impressionnant. Puis ça, tout ça est comme rentré dans mon imaginaire. Puis j'ai voulu comme... Tu sais, autant il y a le déneigement un peu parodique dans mon travail, mais il y a aussi ce savoir-là que je trouve fascinant. Puis donc, c'est ça, ça faisait partie aussi de comme... ce contexte-là dans lequel je voulais inscrire ma pratique.
Puis là, ta pratique, mettons que tu nous situes parce que tu es arrivé, disons, avec une intention sculpturale.
Oui.
Là, tu te retrouves à faire de l'installation.
Ouais.
C'est un mot que tu as utilisé tantôt. Ouais. Peux-tu nous expliquer la transition, d'où ça sort?
Il y avait toujours cette idée-là de performer le processus de création. Donc, j'avais fait des sculptures que je faisais live pendant les expos puis que je proposais aux gens. Donc, il y avait cette idée-là de rencontre déjà. Ce qui s'est avéré aussi, une des raisons pourquoi je suis venu à Québec, c'était parce que je pensais faire de la manœuvre, puis finalement, c'est à Québec que ça a été théorisé avec les gens du lieu, puis je me disais, OK, je vais me rapprocher aussi de ce contexte-là. J'en suis venu à réaliser que j'arrivais juste à m'exprimer puis à être bien, finalement, quand j'étais dans l'action. Puis une de mes premières actions par rapport à ce projet-là, ça a été de ramasser du sel de déglaçage qui se retrouvait tassé sur les côtés des trottoirs, donc inutilisable. Mm-hmm. Ça peut pas tuer personne de ramasser ce sel-là parce qu'il dégèle rien, mais c'est des quantités énormes que j'ai ramassées.
C'est vrai?
Des centaines de kilos. Oh. Ouais, en quelques heures.
Oh!
Ouais. Puis au même moment où il n'y avait pas de neige, je vous rappelle. Là.
Fait que tu t'es mis un peu à incorporer les stratégies de déneigeage qui t'impressionnent tant, là, l'espèce de qualité opérationnelle de ces opérations-là de déneigement. OK. Fait que là, tu t'es mis à ramasser.
Oui.
Puis là, qu'est-ce que tu as fait avec cette accumulation-là?
Bien, c'est là que j'ai essayé. Ça, c'est devenu un peu comme le cœur de ma recherche. C'est comment j'explique aux gens, comment je raconte, comment je fais état de ces actions-là dans l'espace public que personne ne voit, finalement.
Oui, qui disparaissent dans l'éphémère.
Les gens vont me voir, vont penser que je travaille pour la ville, souvent, je suis un col bleu. Donc, c'était de transformer celle-là en créant d'autres formes, en faisant des installations. Puis, la première installation que j'ai faite avec ce sel-là, j'ai recouvert une salle complète remplie de sel.
D'ailleurs, ça pue-tu? Ça dégage-tu une odeur ou c'est vraiment neutre?
C'est assez neutre. Il y a une petite odeur. Ça assèche. Ça assèche. Vraiment, là, on le sent dans le nez. Là. Ça rappelle un peu la mer, finalement. Là. Mm-hmm. Mais je trouvais que ça manquait de vie, finalement, cette installation-là. Fait que pendant la critique où je présentais ça, j'ai commencé à le ramasser. C'était un peu une intuition là, sur le moment, puis à le racler. Puis c'est là que je suis arrivé, finalement, à l'installation, parce que c'est une installation qui continuait à être activée, finalement, par moi ou par les gens qui rentrent dans l'espace.
Prenons le temps là, de enligner notre conversation sur Espérer faire tempête, qui est une installation qui est présentée à Regard dans le cadre de sa programmation. Donc, toi, c'est ton expo de fin de maîtrise ou c'est. Bon, et qui se retrouve à avoir été choisi dans la programmation de Regard. Mm-hmm. C'est une chance, j'imagine, de trouver un centre d'artiste avec tout ce que ça veut dire comme support au niveau de la promotion, de l'installation, etc.
Oui, c'est vraiment une chance, puis je m'y attendais pas vraiment, honnêtement. Puis le groupe de gens qui travaillent là est vraiment merveilleux. J'ai côtoyé à chaque jour, finalement.
Ben oui, parce que là, expliquons à ceux qui nous écoutent, c'est eux qui nous écoutent. Une installation, ça veut dire que elle vit sans toi, mais tu y es pour beaucoup.
Ouais, ben je me suis donné comme défi, puis c'est ce que j'avais proposé à Regard à l'époque, c'est d'être là tout le temps, finalement. Principalement, là, du jeudi au dimanche, les heures d'ouverture minimum. Et ce que je fais, c'est que je prends le sel, entre autres, puis là, c'est là que je le transforme. Donc, j'en fais des statues, je l'utilise pour faire de l'art, finalement, pour me faire plaisir aussi, parce que j'ai réalisé que l'action, c'était une chose qui me faisait vraiment beaucoup de plaisir, mais j'avais besoin aussi de faire des œuvres comme un peu plus traditionnelles. Faire de la sculpture, faire de la photo.
Est-ce que tu recommences à zéro à chaque jour ou s'il y a une accumulation?
Il y a une accumulation, puis toutes les œuvres qui sont produites sont offertes aux visiteurs.
Oh, fait que ça, c'est one-shot deal. Quand je viens, je peux repartir avec quelque chose, la personne qui vient après moi.
Absolument.
Ça n'existe plus.
Exact.
OK, fait qu'il y a vraiment une partie qui est relationnelle.
Oui, puis de plus en plus, je le réalise. Avec les premiers visiteurs, ça a été en fin de semaine, il y a vraiment un moment où que j'offre les gens, premièrement, je leur offre de mettre des pantoufles, je prends leur manteau, je leur offre un café, un thé, une tisane. Si les gens sont plus tranquille, réticent à ça, je les laisse tranquilles. J'essaie d'avoir un peu la présence d'un libraire d'occasion. Tu sais, on rentre dans une librairie, on peut passer 4 heures là, puis il y a une personne dans le coin, ou autant on peut commencer à parler de littérature. J'essaie d'être ça, mais à chaque jour, je m'ajuste là.
Wow! OK. Et puis, il y a plusieurs rendez-vous qui sont donnés par regard. Est-ce qu'on passe au travers pour informer les gens?
Allons-y.
Alors, vendredi, bon, c'était l'ouverture. Il y avait l'installation qui démarrait. Samedi aussi, il y a eu un geste de manœuvre. Mais là, on passe à ce qui s'en vient. Donc, ce samedi 22 novembre à 14h, tu nous invites à faire quoi? Juste venir te voir, hein?
Non, en fait, j'ai accumulé une quantité énorme de sons, de tempêtes, de déneigement et aussi d'artistes que j'aime beaucoup le travail, surtout dans le field recording. Puis, dans le fond, je propose un mix d'une demi-heure où
poésie
il va avoir...
Poésie hivernale, je viens de le voir dans le texte.
Ouais.
Fait que c'est un micro ouvert qui est précédé d'une présentation de ton travail.
Ça va être la semaine d'après.
Ah, bon.
Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le dimanche, le 30. Ce samedi, c'est vraiment... J'invite les gens à venir chiller, finalement, pendant une demi-heure. On s'assoit, il y a des beanbags partout. On écoute cette création sonore-là que je leur offre. Puis en même temps, c'est un beau prétexte pour habiter l'espace pour tester des trucs. Puis c'est vraiment... on est vraiment dans la bonne franquette. On prend un thé, on écoute... on prend ça relax. C'est pour ça que c'est à 14h aussi.
Parfait. On prend le traversier?
Oui, on prend le traversier.
Que tu prends à chaque jour?
Oui. J'adore ça. Ça rythme vraiment mes journées. C'est malade.
T'es vraiment dans une dynamique de travail, travailleur aussi.
Oui, 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 absolument.
On poursuit le dimanche 30 novembre, une autre invitation à 14h, mais cette fois-là, c'est pour...
C'est le micro ouvert. Donc, moi, je vais... Dans le fond, dans l'espace, en ce moment, j'ai recueilli 70 livres qui parlent d'hiver, de tempête, de neige, principalement des livres québécois pour enfants, de cuisine, un peu de tout, poésie. Puis, ce que je fais, c'est que d'ici au 30, je joue là-dedans. Et je ramasse des morceaux qui me parlent et je mélange ça avec mes propres mots. Donc, je présente ça, une lecture qui va durer une dizaine de minutes. Et ensuite de ça, j'invite les gens à participer avec leurs propres écrits.
Mmh. Puis... Super invitation, ça. Le samedi 6 décembre, donc là, on se retrouve là dans 2 semaines, si on veut. Tu nous invites cette fois-là à 15h45 pour aller marcher avec toi.
Oui.
On sort à l'extérieur.
Oui, on sort à l'extérieur. En fait, c'est... Je vais essayer de réenneiger le quartier. On verra s'il va rester de la neige. J'espère qu'il va en rester, mais l'idée, c'est un peu de faire tempête, littéralement. J'ai un projecteur et j'ai filmé énormément de tempêtes, de neige. Puis je tiens le projecteur, je me promène avec le groupe et on marche dans l'espace puis on projette la tempête, finalement. Donc, l'idée, c'est un peu de créer cette tempête-là si elle n'est pas là.
Puis là, toi, es-tu un expert en mapping ou tu y vas vraiment DIY avec...
Ah, c'est super DIY.
Bon.
Je suis un patenteur bien avant tout le reste.
Ça, là, c'est la partie qui me... Le gros hook pour moi, c'est ce patentage-là. J'ai eu la chance de devoir performer cet été dans une journée DIY, là, autogérée, Legs à Québec, et tu avais sorti ta machinerie pour faire de la neige en plein milieu du mois de août. C'était extrêmement chaud, on était toutes comme des macaronis trop cuits cette journée-là, là, c'était bouillant. Puis toi, tu faisais de la glace, tu faisais de la neige avec des machines qui avaient l'air du stock de camping bien ordinaire. Donc, cet aspect-là du patentage, il prend-tu beaucoup de place dans ta pratique? La machinerie, les outils, le gear?
Ouais, c'est vraiment ça. Puis c'est aussi, ça me permet des rencontres. Pour les gens qui vont visiter à Regard, ils vont se rendre compte aussi à quel point j'ai des patentes. Puis c'est toujours des choses que j'achète, que je trouve sur Marketplace. Puis je me fais un point de rencontrer les gens puis de leur dire « Hey, c'est pour l'art ». Puis là, on a toujours des super discussions, honnêtement. Puis même le réparateur de souffleuses à qui j'ai acheté plein de pièces de souffleuses par rapport a trouvé un sens esthétique. Il continue à m'envoyer des pièces. Il me dit « Elle est vraiment belle ». Tu sais, il dit « T'as vu-tu? » Ça, je trouve ça vraiment cool, tu sais. Fait que c'est ça. C'est beaucoup du patentage. Je suis pas un technicien dans rien, honnêtement, mais c'est le fun.
Ah, le sens, mais c'est ça, mais c'est parce que le rapport esthétique aux objets utilitaires, il est vraiment présent chez plein de monde. Là. C'est pas du tout un champ réservé aux artistes. Mm-hmm. Il y a plein de gens qui trippent sur certaines catégories d'objets, d'outils, puis qui ont une vraie relation esthétique de proximité avec ces objets-là.
Tellement, puis dans le déneigement, je m'en suis rendu compte aussi. J'ai filmé les chenillettes avec les autres équipements tout ensemble, puis on dirait vraiment un ballet. Même que les gens qui vont venir à Regard vont s'en rendre compte. J'ai fait une vidéo, c'est littéralement la musique de Casse-Noisette avec moi qui filme finalement des chenillettes qui bougent. Là.
Toi qui danses avec les déneigeuses.
Ben moi, je bouge. On me voit très peu, mais on voit les chenillettes qui dansent finalement. C'est un ballet finalement, ouais.
Est-ce que ton jury est déjà fait ou ça s'en vient?
C'est un peu plus tard, mais oui, ça s'en vient.
Comment tu te sens par rapport à ça?
Les gens avec qui je connais un peu les membres du jury, puis je suis juste un peu starstruck finalement parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup la pratique qui sont là. Fait, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont en penser, puis j'ai hâte aussi d'avoir une discussion là, plus théorique peut-être, je sais pas.
Ouais. Ben, je te souhaite en fait que ce soit riche en réflexion pour que ça puisse nourrir. Puis je te souhaite de pouvoir trouver des espaces pour continuer ce filon-là. Tu as quelque chose de fort. Je pense que tu dois le sentir aussi dans la réception que les gens ont de ton travail.
Ah ben merci. Ouais, j'imagine, je sais pas. c'est à voir. Ouais. Merci. À discuter.
Merci Maxime. On va te voir, on prend le traversier, on traverse. Quand on sort du traversier, Regard est direct en face. Donc il y a vraiment une expérience à vivre. Puis la neige, c'est beau de la voir aussi tomber sur le fleuve. J'imagine que le traversier, c'est comme un moment de paix là, à chaque jour. Hein.
C'est un moment de paix et un moment de performance d'action.
Fait que si jamais on est sur le même horaire que toi, on va te voir en action déjà sur le traversier.
Oui.
C'est un rendez-vous. Merci, Maxime Sauvage.
Merci.
On prend une courte pause musicale et au retour de la pause, on vous présente l'agenda de la semaine. Bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est le moment de l'agenda de la semaine ou le moment où Mathilde Harvey-Morin et moi-même vous présentons une sélection des activités culturelles vers lesquelles nous souhaitons vous orienter pour la semaine. Mathilde, voudrais-tu nous présenter la première sortie?
Absolument. On va commencer avec un événement à la Maison de la littérature à l'occasion du vernissage de l'exposition « Incante ». Présenté à la Maison de la littérature, Audrey Willamy, merci, présentera une lecture intégrale de son recueil ce mercredi 19 novembre à 17h, donc demain. Cette lecture-performance propose le texte dans sa totalité, dans sa cadence propre, sans découpe ni commentaire, comme on présenterait une œuvre visuelle dans sa pleine amplitude. Il ne s'agit pas d'une simple lecture publique, mais d'un moment de présence. Une voix qui porte le texte, un corps qui soutient la matière écrite et un public rassemblé autour de cette adresse directe. Un conte sera entendu comme il a été écrit. dans son souffle, ses invocations, ses angles de résistance et de tendresse. Cette performance lecture agit comme une ouverture officielle de la fameuse exposition. Donc, je pense que c'est un peu performance, vernissage. Elle inscrit le livre dans l'espace, qu'elle en révèle la totalité. Et elle permet d'entrer ensuite dans les talismans et les chines collées en comprenant d'où ils viennent. L'événement marque l'entrée du recueil dans le monde devant vous.
C'est super, ça. On poursuit avec une proposition, une invitation du Centre de formation et de création en métiers d'art de Québec. Ils sont fiers de nous inviter à aller voir l'écho de la matière, poétique et interdisciplinarité en métiers d'art, une exposition collective imaginée par Clara Benazera, artisane textile et commissaire. Le vernissage de cette exposition présentée à l'espace 400 est prévu dimanche 23 novembre de 15h à 17h. L'expo réunit 18 artistes issus du textile, de la céramique, de la sculpture, de la joaillerie et de l'ébénisterie. L'exposition célèbre la créativité, la recherche et la collaboration au cœur des métiers d'art contemporains. Chaque duo d'artistes explore la rencontre entre les disciplines et les savoir-faire, donnant naissance à des œuvres inédites qui révèlent la richesse de la matière et le dialogue entre tradition et innovation. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Porin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur vos plateformes de balado préférées. On est aussi ouvert à la recherche de collaborateurs. Si jamais vous avez envie de venir faire de l'animation, de la chronique, de parler d'art visuel, de parler de votre pratique ou de celle des autres, vous êtes bienvenus. Vous pouvez nous écrire en DM sur Facebook ou Instagram ou nous écrire à aérospatiale.ckrl@commercial.gmail.com. Un grand merci à Juliette Matte-Breton et Maxime Sauvage. On se laisse sur une dernière piste de Cloud Warmer et on se retrouve la semaine prochaine.
89.1.
Tu tranches à lait. Tu frappes un animal. Ton char part plus. Puis, une créature bien spéciale te rend visite. On souhaite ça à personne. Sauf à Dominitri et Anna Plume, Dieu donné roi. Parce que là, avec eux, ça fait un ben bon show. Premier acte et Mathilde Eustache présente Des hamsters dans le frigo, du 18 novembre au 6 décembre. Un spectacle fort en émotion, en musique et en magie. Pour toute information ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur premieracte.ca.
Premier acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse des Jardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire, Hydro-Québec, Le Soleil et la Fabrique culturelle.
Bientôt au Palais Montcalm, le groupe Blue Rodeo célèbre ses 40 ans avec ses plus grands succès. L'enfant chéri de l'indie folk, Leif Volbeck. Les vedettes montantes du jazz vocal, Kitty Giorgi et Gabby Hartmann. L'ensemble cubain Cubanismo avec le fabuleux trompettiste Jesus Almani. Et l'organiste virtuose Cameron Carpenter crée la trame sonore du film Le fantôme de l'opéra. Détails au palaismontcalm.ca.
Si vous voulez partir, partez, on va barrer les portes.
Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
L'Anglicane présente deux soirées inoubliables. Le samedi 22 novembre, laissez-vous transporter par le Rémi Bolduc Jazz Ensemble, qui rend hommage au légendaire Oscar Peterson. Puis le jeudi 27 novembre, découvrez David Corriveau. La voix caméléon, finaliste à la France à un incroyable talent, présente son tout premier spectacle solo. Deux soirées, deux univers. Informations et achats au espace dcl.ca.
Envie d'un coup d'éclat avant les fêtes? Découvrez le soin Bella MD, une expérience unique signée Equinox. Ce soin haute technologie purifie, oxygène et illumine la peau pour un teint frais et radieux, juste à temps pour vos célébrations. Profitez d'une offre spéciale tout le mois de décembre et redécouvrez la beauté naturelle de votre peau. Clinique Equinox, la haute technologie, bien-être et authenticité s'équilibrent. À Le Bourgneuf et à Beauport, cliniqueequinox.ca.
Vous écoutez
l'ABC des BD.